Hello, je suis Aurélie Gillard, ton hôte sur Tech Lipstick, le podcast des femmes qui conquièrent la tech. Tous les 15 jours, rejoins-moi pour une conversation avec des femmes inspirantes, qu'elles soient entrepreneurs, ingénieurs ou salariées dans une start-up tech. Nous échangeons sur leur parcours et sur les challenges que nous rencontrons tous dans le monde du travail d'aujourd'hui, et particulièrement en tant que femmes dans la tech. Nous en apprendrons plus aussi sur les différents secteurs de la tech, les opportunités et les challenges de cette industrie. Merci de ton soutien en t'abonnant à cette émission. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode qui marque le début d'une série de témoignages de femmes qui travaillent dans des domaines ou des métiers avec une forte dimension technique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une des femmes leaders dans le domaine du New Space, domaine que nous allons découvrir à l'occasion de cet entretien. Lucie, bonjour et bienvenue sur Tech Lipstick.
Bonjour et merci de m'avoir invitée.
Eh ben, écoute, avec grand plaisir, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, donc je m'appelle Lucie Campagnolo. Actuellement, je dirige une petite société qui s'appelle Space Founders. Alors Space Founders, c'est à la fois un programme d'accélération pour les startups du spatial, donc du New Space européen, et on va y revenir, j'imagine. Et on est aussi investisseur, donc on prend des participations dans des startups qui nous paraissent pertinentes d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue économique, et on les accompagne au long cours sur le marché européen.
C'est super intéressant, évidemment, ce domaine. Je crois que tu es vraiment la première que je reçois dans ce domaine de l'espace. Donc, évidemment, ça fait rêver et je te poserai, bien sûr, les questions qui, sans doute, interrogent aussi les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Traditionnellement, je démarre par le parcours de mon invité. Et en ce qui te concerne, donc, j'ai pu voir que tu avais un diplôme d'ingénieur en électricité et un doctorat en sciences de l'optique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a conduit à ce choix d'études ?
Alors oui, donc en effet, moi j'ai un diplôme en électronique de l'ENSET, qui est une école d'ingénieurs à Toulouse, tout simplement puisque j'ai fait des classes préparatoires scientifiques. J'avais à l'époque déjà un fort intérêt pour la science et un petit peu moins peut-être la technique, mais j'étais très très scientifique. Et ça me paraissait, dans les années 2000, le parcours classique pour aller vers ce type de métier. Et à l'issue des classes préparatoires, on a plus ou moins performé sur des concours aux écoles d'ingénieurs. Et donc, je me suis, je ne vais pas dire retrouvée, mais en tout cas, un de mes choix a été réalisé. Et je me suis retrouvée donc à Toulouse en électronique. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était vraiment faire de l'électronique et vers quel type de métier ça pouvait nous amener. En fait, l'électronique, c'est très transverse. On le retrouve dans toutes les verticales. Donc, on peut avoir des capteurs, par exemple, pour le médical, qui est un petit peu mon parcours. On peut avoir des systèmes pour les transports, pour l'automobile, pour les objets connectés. En fait, c'est extrêmement large en termes de champ applicatif. Donc, j'ai fait mes études sur ces sujets-là. Et à l'époque, je voulais être professeur. Donc, la suite, pour moi, c'était un doctorat dans le but de préparer en fait, les concours pour être maître de conférence. Et j'ai eu la chance de faire un doctorat entre donc un laboratoire de recherche à Toulouse et une université en Australie, à Brisbane, ah, sur des sujets en fait, de capteurs pour la détection précoce des cancers de la peau. Alors très très simplement, à l'époque en Australie, il y avait vraiment des vrais sujets sur le trou de la couche d'ozone et une grosse prévalence des cancers de la peau. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir un capteur optique, d'où le champ applicatif de mon doctorat, qui permettait en un clin d'œil de savoir s'il y avait une hypervascularisation, donc un apport de circulation sanguine locale au niveau d'un grain de beauté qu'on suspecte peut-être être une tumeur. Et dans ce cadre-là, si c'était confirmé, ça donnait une indication aux dermatologues de dire que là, il y avait vraiment quelque chose à regarder, puisque les tumeurs se nourrissent en fait d'apports et de nutriments. Et l'idée, c'était de faire un objet super pratique à utiliser dans les cabinets de dermatologie pour aider le dermatologue. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans sur ce sujet. Je me préparais à passer les concours de maître de conférence. Et une offre d'emploi est sortie de l'Agence spatiale française, et c'est là en fait que j'ai raccroché d'accord, la thématique du spatial, qui recherchait un responsable d'expérience en micro-pesanteur pour la médecine spatiale. Et les sujets que l'on étudie sur l'homme dans l'espace sont multiples, mais il y avait en particulier le comportement de la micro-circulation sanguine en micro-pesanteur. Okay. Et en fait, c'est comme ça que j'ai changé finalement de champ applicatif et que je suis passée du biomédical au spatial. Et donc, ma première expérience professionnelle, c'était pour mettre en place des expériences sur les astronautes.
D'accord. Alors, C'est intéressant parce que je pensais, avant notre interview, je m'imaginais que depuis que tu avais 10 ans ou 12 ans, tu rêvais de travailler dans le domaine spatial. Elle rêvait à quoi, la petite Lucie de 10-12 ans ?
Alors moi, je voulais être institutrice. Ça a été un vrai sujet. J'ai travaillé pendant pas mal d'années en maison de quartier. J'ai travaillé dans le médico-social. J'aime toujours d'ailleurs. J'aimais beaucoup être au service des gens, travailler localement sur les territoires. Donc, j'avais pas du tout de rêve grandiose de impacter la science, la recherche et la connaissance, on va dire, à mon niveau. C'était des choses qui me paraissaient complètement inaccessibles. Pour être très franche, quand je suis rentrée mon premier jour à l'Agence spatiale française, je suis accueillie par mon chef qui me fait un tour des bureaux et on rentre dans une salle de contrôle. Mais vraiment la salle de contrôle comme ce que t'imagines à la NASA. Des gens affairés sur des pupitres avec des casques qui parlent en anglais avec des tonnes d'ordinateurs. Un énorme écran, il y avait des astronautes en live qui étaient en train de parler avec les opérateurs sol. Et moi, je ne savais même pas qu'on avait des astronautes 365 jours par an, 24 heures sur 24, dans la Station spatiale internationale qui orbitait autour de la Terre. Je n'avais aucune idée des champs de recherche sur ces sujets-là, sur les habitats, sur la Lune. C'était vraiment un monde que j'ai découvert par hasard et je me suis prise de passion pour le sujet.
J'imagine. Enfin, je me dis effectivement. Alors, tu étais passionnée aussi parce que pendant 3 ans de doctorat, tu as travaillé sur les sujets que tu nous as décrits en Australie. Tu n'étais pas basée là-bas.
Je faisais les allers-retours.
Ah oui.
3 mois en Australie, 6 mois en France, 3 mois en Australie, 6 mois en France.
D'accord. J'ai lu dans ce super livre que je recommande à tous et à toutes qui s'appelle « Femmes invisibles » de Caroline Criado-Pérez, et je mettrai les références dans les notes de l'épisode, que les femmes avaient moins de chances de terminer leur doctorat pour diverses raisons, notamment liées aux limites d'âge qui sont imposées dans la durée des études et qui souvent, en fait, sont impactées par la vie des femmes. Et ça peut être entre autres les maternités. Comment ça s'est passé pour toi, ton doctorat ? Comment tu l'as vécu ?
Alors, je pense, avec du recul, que j'étais trop jeune quand j'ai fait mon doctorat. Donc moi, j'ai eu un parcours très linéaire où j'ai enchaîné en fait toutes mes études sans aucun accroc, sans aucune déviation. Et là, je vais faire le parallèle avec l'Australie. J'avais un binôme en Australie, que je salue, qui s'appelle Milan, qui lui avait eu un parcours complètement différent, où il avait eu son diplôme d'ingénieur, puis ensuite il était rentré dans l'industrie. À une période, il a été moine, ensuite il est sorti du monastère. Ouais. Mais en tout cas, le message, c'est qu'il avait eu une vie en fait entre ses études et le début de son doctorat. Et pareil, mes collègues en Australie avaient tous eu une autre vie. Ils n'étaient pas forcément vieux, mais ils étaient revenus en fait au sujet de la recherche. Et je vois bien la différence de maturité intellectuelle sur le fait de se poser des questions, de savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. J'ai beaucoup appris à leur contact, mais moi, je pense que c'était... À l'époque, je n'ai pas vraiment compris ce que c'était qu'un doctorat. Si je devais le refaire maintenant, et peut-être je n'exclus pas de reprendre mes études à un moment ou à un autre, j'aborderais vraiment le sujet de façon complètement différente, beaucoup moins scolaire, en me disant, voilà, comment est-ce que je peux faire avancer la connaissance ? Qu'est-ce qui est pertinent ? Est-ce que je peux sortir du carcan, on va dire, pas administratif, mais éducation, enfin les choses dans lesquelles moi j'étais extrêmement bien incorporée. Ça faisait partie de ma personnalité de respecter les règles, respecter le cadre, et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on fasse la bonne recherche, mais à l'époque, j'avais pas le recul différent. Donc au jour le jour, mon doctorat s'est plutôt bien passé, comme n'importe quelles études longues, c'est-à-dire que des fois, on en a marre, mais avec du recul, je ne pense pas avoir vraiment compris pourquoi j'étais là et ce que je pouvais apporter.
D'accord, donc tu l'as fait quoi ? T'as entre 23 et 26 ans, c'est
23 et 26, donc moi, ouais. J'avais pas de problématique liée à la maternité, parce que j'ai eu ma fille, je vais pas dire sur le tard, mais à 33 ans. Donc j'ai pas eu ces sujets-là. J'étais évidemment la seule fille de à peu près tout le laboratoire, avec tout ce que ça comporte, surtout dans les années 2000. J'imagine que c'est peut-être un peu différent actuellement. Mais vraiment, ce que je retiens de cette expérience, c'est que moi, j'ai abordé le doctorat comme quelque chose d'ultra scolaire, comme une case à cocher, et que j'aurais pu vraiment apprendre plus, comprendre plus, prendre plus le temps, faire des choses différentes et intéressantes, plutôt que juste essayer de rentrer dans le cadre et d'avoir mon diplôme.
Très intéressant, en tout cas, pour toutes ceux et celles qui se posent la question de ce genre d'études. Tu as démarré ta carrière, donc ça s'appelait, donc tu parlais d'agence spatiale, moi j'avais noté Institut de médecine et physiologie spatiale.
C'est une filiale. Donc l'agence spatiale, c'est le CNES. Et le CNES a plusieurs filiales, dont une filiale qui s'appelle MEDES, donc l'Institut de médecine et de physiologie spatiale, qui s'occupe, pour le compte de la France et de l'Europe, d'implémenter tous les sujets liés à la médecine spatiale, donc les expériences scientifiques, mais aussi on faisait à l'époque beaucoup d'études cliniques au sol pour déconditionner artificiellement le corps, donc lui faire croire qu'on est en micro-pesanteur, et tester des choses, mais au sol, c'était sur la clinique de l'hôpital de Rangueil, à Toulouse. Et MEDES, on s'occupait aussi de fournir les médecins pour les astronautes européens. Donc il y avait un centre à Cologne, en Allemagne. C'est vraiment tous les sujets liés à l'homme dans l'espace.
Absolument passionnant. Dans ton doctorat, quelle est la place pour toi et quelle était la place dans tes études de la médecine ? Parce que, c'est pas une formation de médecin que tu as fait. Donc, quelle est la place, en fait, de la médecine dans tes études ?
Alors, dans mes études, au sens strict du terme, zéro.
Okay.
J'ai absolument aucune formation liée de près ou de loin, même aux sciences biomédicales.
Okay.
J'en fais très, très techno-électronique. Ensuite, sur les premières années à MEDES, le travail de responsable d'expérience, c'est de faire le lien avec les équipes de recherche qui, elles, viennent plutôt du monde médical ou des instituts de recherche biomédicale, et donc qui m'ont finalement fait monter en compétence sur certains sujets, au moins pour avoir assez de vernis technique pour comprendre ce que je faisais. Et l'autre chance que j'ai eue, c'est qu'en parallèle de ce travail de responsable d'expérience, j'étais ce qu'on appelle bid manager, qui en fait, ça consiste à répondre aux appels d'offres pour développer des nouveaux protocoles, des nouvelles technologies. Et donc, quand on répond aux appels d'offres, il faut bien comprendre, fait beaucoup de revues de littérature, revues d'état de l'art. Donc, ma formation, finalement, en recherche, était applicable sur des sujets que je ne connaissais absolument pas. Je me rappelle avoir fait une réponse sur la protéomics dans l'espace. Je ne savais même pas ce que c'était.
C'est quoi la protéomics ?
C'est l'étude des protéines et de ce qu'elles ont à nous dire et de le changement sur la signature, l'expression de certaines protéines en micro-pesanteur. Et donc, ça m'a forcé à faire de la bibliographie, à appeler des laboratoires, à appeler des experts dans le domaine et à pas vraiment me former, mais au moins rentrer dans le sujet. Mais non, j'ai pas du tout eu de formation médicale.
Ça marche. J'en viens, du coup, tu touches du doigt une qualité, en tout cas, que moi je retrouve chez toutes les femmes qui viennent à ce micro, c'est ça nécessite une curiosité intellectuelle et une capacité à te former tout le temps. Si j'entends ce que tu me racontes par rapport à ton expérience professionnelle.
Oui, je pense que c'est vraiment... moi, c'est le défaut de mes qualités. C'est-à-dire que je m'intéresse à tout et rien. Et on en parlait au début, j'ai jamais eu de passion pour le spatial quand j'avais 10 ans. Mais j'ai eu des passions un jour pour les animaux, le lendemain pour les cristaux, le surlendemain pour les étoiles, quoi. Et ça fait que automatiquement, je me disperse assez facilement, même actuellement, même à mon âge. Mais ça permet aussi de s'intéresser à plein de choses, d'être capable de ne pas être statique et de ne pas se dire « j'ai fait des études d'électronique, je vais faire de l'électronique toute ma vie », de changer de métier. Là, maintenant, je fais de la finance, donc c'est quelque chose qui est encore complètement nouveau pour moi. Et d'être finalement assez plastique dans l'approche au monde du travail. Et le domaine du spatial est particulièrement propice à ce genre de comportement, puisqu'on va sur de la création de technologies dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, où on n'est jamais allé. Enfin, quand on se retrouve en groupe de travail, projet, trouvez-moi le meilleur habitat pour vivre sur la Lune, finalement, c'est de la créativité, c'est du design, il faut essayer de réfléchir sur quelque chose qui n'existe pas et qu'on ne maîtrise pas. Et là, être intéressé à d'autres sujets comme la science-fiction ou la littérature ou juste l'art ou le design, c'est extrêmement important. Ça permet de faire des synergies et de créer quelque chose de nouveau.
Et c'est ça, quand tu es responsable d'une expérience, tu amènes des personnes de plusieurs disciplines, justement ?
Alors, c'est toujours interdisciplinaire. C'est sûr qu'il y a certains métiers qu'on retrouve beaucoup. Donc, j'en ai parlé, les chercheurs, ceux qui ont vraiment... qui sont garants de la méthodologie scientifique et du traitement des résultats pour publier et donc faire avancer la communauté scientifique. On travaille avec, bien évidemment, des industriels, donc des gens qui vont fabriquer l'objet ou les objets qui vont être utilisés dans l'espace pour prendre les données. Donc si je reprends mon exemple de la circulation sanguine, il nous faut aller des capteurs qui tiennent les contraintes spatiales pour étudier la circulation sanguine des astronautes. Mais ces métiers, en fait, c'est pas en silo. Automatiquement, on est obligé de communiquer avec les équipes de recherche. On retrouve tous les contrôleurs projet, gestion qualité, puisque nous, dans le spatial, on ne peut pas... une fois qu'un objet est dans l'espace, on peut difficilement le ramener s'il tombe en panne. Donc, on a des gros process sur la qualité. La communication, extrêmement importante. Communication en interne, mais communication aussi en externe pour le grand public, pour expliquer ce qu'on fait. Donc, il y a un gros sujet, en fait, de vulgarisation, de communication, notamment avec les astronautes européens, mais de nationalité française, qui ont dans leur contrat vraiment ce devoir de communiquer du plus petit, donc des écoles maternelles, aux plus âgés, les universités interâges ou le citoyen, ce qui se passe, qu'on fait, à quoi sert l'argent public. Donc il y a vraiment énormément de métiers. Et on a aussi eu des situations sur des groupes de travail en prospective spatiale, qui s'appelle Spacible, qui est porté par le CNES, où des architectes étaient invités, ou des écrivains de romans de science-fiction pour penser le futur, pour nous obliger à faire un exercice intellectuel qui consistait à sortir de notre travail opérationnel et de ce qu'on connaissait pour créer des nouvelles choses. Donc oui, c'est complètement interdisciplinaire, et le message, en tout cas que je voudrais passer, c'est que si on veut travailler dans le spatial, on n'est pas obligé d'être ingénieur. Il y a énormément de métiers. C'est une grosse machine, donc il y a énormément de choses à faire sur le sujet.
Y compris de la communication et...
Du marketing, du design, du dessin technique. Il y a énormément de choses.
Excellent. Est-ce que tu as des noms d'auteurs de science-fiction ? J'aime beaucoup la science-fiction. Oui. Qui t'a vu ? Qui t'a rencontré ?
Alors, j'ai pas les noms en tête. Et je gardais ma recommandation science-fiction fin.
On y reviendra. On y reviendra. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, j'aime beaucoup tous les livres qui ont remporté le prix Nebula, par exemple. C'est toujours une référence et c'est quelque chose qu'on peut aller chercher. Et ça permet de s'évader, de rêver et de complètement sortir de notre monde. Donc, au bout de 9 ans, tu décides de te lancer en freelance pour faire du conseil auprès d'autres entreprises du secteur de l'espace. Pourquoi, tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce virage ?
Alors, pour pouvoir t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce virage, il faut peut-être que je t'explique un peu plus ce que j'ai fait pendant ces 9 ans. Parce que
Absolument.
C'est intimement lié.
Absolument, allons-y.
Donc j'ai travaillé comme responsable d'expérience et j'ai eu aussi la chance de travailler sur la première mission de Thomas Pesquet, qui s'appelait Proxima à l'époque, en 2017. Où là, je m'occupais des expériences en microbiologie, sciences de la vie dans l'espace. Et ça a été une période assez particulière pour moi, où j'étais 100% dans de l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'astronaute, et d'autant plus c'était le premier astronaute de nationalité française depuis au moins une dizaine d'années, est plus grand que nous, entre guillemets, en tout cas dans mon contexte professionnel. Et donc c'était une période très chargée en adrénaline. On voyageait beaucoup, on était partout, on avait des très grosses contraintes temporelles puisqu'il ne fallait pas rater la livraison de notre matériel pour les scientifiques sur les lanceurs, donc sur les fusées, pour que ça arrive en même temps que Thomas Pesquet. Donc pas de marge de manœuvre. Et c'était vraiment 3 ans où j'ai travaillé énormément, mais c'était les 3 meilleures années de ma vie parce que je vivais le rêve, quoi. Moi, je marchais énormément à l'adrénaline à l'époque. On rentrait en console, c'est des shifts pourtant au 3-8 hein, avec les casques. Donc des fois, il ne se passait rien la nuit, mais en fait, j'avais l'impression de faire partie de l'histoire. Donc j'ai énormément travaillé pendant cette période, 2017, 2018, 2019. Et puis Thomas Pesquet est revenu sur Terre. Et pour moi, c'est un peu, je fais le parallèle avec les gens qui font l'armée, revenir à une vie entre guillemets normale a été un petit peu compliqué pour moi parce que me retrouver dans un travail de bureau qui était très intéressant, on en a parlé. Je sais pas, j'ai eu un vide et c'est là où j'ai eu ma fille. Alors là, j'ai pas eu ma fille parce que j'ai eu un vide professionnel, ça est tombé
comme ça.
Sur les âges, on en parlait tout à l'heure, où moi la question de la maternité s'est posée. Mais un nouveau-né à la maison, un travail de bureau versus je pars à Houston regarder la fusée SpaceX.
Waouh.
Donc je me suis posé quelques questions et finalement 10 ans, ça passe très vite. Mes sujets, c'était des sujets de niche, mais qui m'ont toujours extrêmement intéressée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en fait ? Gros moment d'introspection où je me suis rendu compte que ce qu'on appelle maintenant le New Space était en train d'émerger. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des startups qui avaient des projets un peu fous, un peu futuriste, des choses que nous, en tant qu'institution, à une période, on n'osait pas faire ou c'était pas une priorité. Alors ça a beaucoup changé depuis, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait de la créativité à l'extérieur. Et en discutant avec mon management, qui m'ont accompagnée d'ailleurs pour cette transition, ils m'ont même aidé pour me faire connaître, enfin vraiment, je suis pas du tout partie en mauvais termes, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le sujet. Et j'ai décidé donc de me lancer en freelance au début. Je n'avais même pas une volonté de monter une boîte, c'était en freelance, pour être bid manager, donc pour écrire les réponses aux appels d'offres, mais pour des startups du New Space qui, eux, n'avaient soit pas les codes, pas la technicité ou pas le temps pour faire ces grosses réponses aux appels d'offres que moi, j'avais l'habitude de faire. Et ça a marché très vite. Et surtout, je me suis rendu compte du champ des possibles. C'est-à-dire que quand on travaille sur une proposition d'appel d'offres, on travaille dans les équipes pendant un mois, deux mois, trois mois. Et j'ai découvert en fait plein de choses. Et pour moi, c'était vraiment la corrélation entre la technique. Donc, par exemple, je travaillais sur des sujets pour faire des nouveaux moteurs de fusée. Je ne connaissais rien au moteur. Donc, j'ai été obligée de me former. Mais aussi l'écriture. Et j'aime beaucoup écrire. Toujours être beaucoup écrit dans ma vie. Et comment manier la langue pour que le propos soit compris, pour que la personne qui va lire la réponse à l'appel d'offres soit convaincue, sans trahir la vision la volonté d'exécution des fondateurs de la start-up. En fait, j'ai adoré cet exercice d'écriture. Et je n'ai pas fait ça longtemps, puisque un de mes clients était Space Founders, qui est la société que je dirige maintenant, qui venait de se monter. Donc Space Founders, c'était toujours cet accélérateur de start-up du spatial. Et beaucoup de mes clients freelance étaient aussi dans Space Founders. On s'est retrouvés un peu dans le même réseau. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui les aidait à décrypter l'écosystème spatial. Et donc, je suis rentrée d'abord en consultante à Space Founders. Et puis, une chose en entraînant une autre, maintenant, je dirige cette petite société.
Excellent. Alors, tu vas nous parler justement des missions. Je voudrais revenir rapidement sur plusieurs points. Donc, le New Space, on est d'accord, ce sont toutes les nouvelles entreprises qui se lancent. Enfin, c'est l'écosystème. Voilà, tu peux m'aider sur la définition, en fait.
Alors, j'aimerais t'aider sur la définition du New Space. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant de définitions du New Space que de personnes. En deux mots, et pour simplifier et vulgariser... On en a parlé, le spatial, à l'exception des télécoms, donc en fait la télé par satellite, c'était principalement, jusqu'à une vingtaine d'années, un domaine institutionnel et militaire. Notamment du fait du coût prohibitif de l'accès à l'espace, donc ça c'est vraiment le gros changement dans notre industrie, qui faisait que les modèles économiques pour une société privée étaient compliqués à trouver sur l'exploitation d'assets dans l'espace, donc de satellites, à l'exception encore une fois des télécoms qui, eux, ont toujours été un domaine commercial. Et finalement, on a eu plusieurs tendances que sont la baisse du coût de l'accès à l'espace qui a entraîné en fait le changement de mentalité qui permettait de tester des choses et plus de fabriquer des objets qui allaient durer 15 ans dans l'espace, très très cher, mais d'envoyer des petits satellites juste pour voir si ça marchait. Donc ça a complètement changé en fait la façon de travailler. La miniaturisation des composants, des cartes électroniques, une grosse composante électronique dans un satellite, des ordinateurs de bord, etc., qui permettaient de faire beaucoup plus de calculs à bord que ce qui était permis avant, et donc du coup de faire des missions plus intéressantes, d'envoyer quand je parle de missions par exemple, on peut penser à de l'observation de la Terre. Avant on prenait des photos, maintenant on peut faire des photos des missions hyperspectrales, on peut faire du traitement en orbite, on peut détecter des changements, des choses super fines avec de l'intelligence artificielle. Donc en fait toutes ces avancées techno ont permis de créer des nouveaux services dans l'espace, et le coût économique baissant de tout ça a permis de les vendre et de le rendre rentable. Et donc ça a attiré l'intérêt d'industriels, d'abord les gros industriels, puis des startups, et là ça devient vraiment un domaine commercial. Et donc le New Space, c'est ce changement entre un marché trusté par les gros projets, la science et les institutions, à une économie de l'orbite basse principalement, donc 500 km à peu près au-dessus de notre tête, où on a maintenant des acheteurs et des équipementiers, c'est un marché économique normal en fait, qui se développe, et donc des nouveaux entrants, etc.
On ne peut pas penser au New Space sans penser à Elon Musk. Avant d'écouter la réponse de Lucie au sujet d'Elon Musk, je voulais partager une information. On me demande souvent ce que j'utilise pour enregistrer les podcasts quand je ne suis pas en studio. J'utilise un outil qui s'appelle Riverside.fm, Riverside.fm. C'est un outil très complet qui me permet de proposer une solution d'enregistrement à distance avec un enregistrement de piste locale, ce qui garantit une bonne qualité de son et puis plein de fonctionnalités d'édition pour monter des clips, faire de la transcription, avoir des clips prêts pour les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à le découvrir. Moi, je l'utilise depuis de nombreux mois maintenant et j'en suis hyper contente. Voilà, ça n'est pas une information sponsorisée. Je ne reçois pas d'argent pour partager cette info, mais je trouvais qu'elle était utile. Je vous laisse en compagnie de Lucie pour la suite de l'épisode et on se retrouve à la fin. On ne peut pas penser au New Space sans penser à Elon Musk.
Il a été en effet une figure emblématique du New Space et il l'est toujours. Son approche de développement de fusées, donc de hardware, était extrêmement novatrice à l'époque, même si, on le rappelle, on le voit dans toutes les biographies, c'était très 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 accompagné par la NASA, qui avait tous les savoir-faire. Il a été, évidemment, il a reçu des contrats publics. Mais en fait, pour moi, c'est des vases communicants. Les États-Unis avaient déjà commencé à changer leur modalité d'achat, de procurement. Ils sont passés finalement d'appels d'offres institutionnels avec des consortiums à de l'achat comme un client auprès d'acteurs privés et d'acteurs privés qui n'avaient pas forcément énormément de track records, donc d'héritage spatial. Et donc ça, c'était un gros changement en fait dans la façon dont on fait des achats quand on est dans une institution, qui a permis à SpaceX de, un, avoir de la liberté créative, c'est-à-dire que l'appel d'offres n'était pas extrêmement cadré et donc ils pouvaient aller sur des méthodologies de fabrication super agiles, de l'impression 3D, puisque ce n'était pas cadré, donc on pouvait faire ce qu'on voulait, tout en ayant un contrat sûr et certain parce que l'acheteur est un institutionnel, ce qui rassure des investisseurs privés qui sont venus abonder au capital. Donc en fait, SpaceX, oui, ils sont arrivés au bon moment. Avec évidemment, il y a une grosse part, de personnalité du fondateur. Mais ils sont arrivés à un moment charnière, en fait, du spatial. Ils ont eu la bonne réponse au bon moment, extrêmement agressif. Et ils ont traîné avec eux toute une industrie. Et ils ont permis à énormément d'acteurs émergents, finalement, de se développer.
Tu l'as juste mentionné, quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans ton métier ?
Alors, on voit de plus en plus de projets autour de l'intelligence artificielle. Peut-être une mini-discrétion, si tu me le permets. Le spatial, ce n'est pas que ce qui est dans l'espace. C'est là où, moi-même, je fais des raccourcis, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais le spatial, c'est aussi tous les équipements sols, les opérateurs sols. Donc, moi, quand j'ai commencé en opération, on faisait les commandes, on les tapait à la main. Évidemment, tu imagines que maintenant, ce n'est plus du tout le cas. L'utilisation des données spatiales pour des services sur Terre. Donc, on reprend mon exemple d'observation de la Terre. Maintenant, on a énormément de couches d'intelligence qui permettent de traiter, de purifier, de ranger les données, d'extraire ce qui est intéressant, de voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, etc. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, elle est vraiment arrivée sur les marchés sols d'utilisation des images spatiales. Et là, on a les sujets d'intelligence en orbite. Donc, des satellites qui ont des algorithmes qui sont embarqués sur la plateforme et qui peuvent tout seuls prendre des décisions sans passer par le sol, avec toutes les garde-fous qu'on imagine dans un monde comme le nôtre, qui sont pas de décisions qui peuvent induire du risque, évidemment un contrôle sol sur pas mal de choses. On n'est pas connecté à Internet, donc faut imaginer des algorithmes qui sont presque en autonomie. Et enfin, il n'y a pas beaucoup de puissance, puisque c'est donné par les panneaux solaires. Plus le satellite est petit, plus les panneaux solaires sont petits, moins il y a de puissance, moins il y a d'énergie pour les calculs, donc pour les ordinateurs qui sont à bord, moins il y a de capacité de faire de l'intelligence à bord. Donc en fait, c'est une révolution qu'on voit partout, c'est les tendances que l'on voit sur tous les sujets, mais qui sont intimement liées avec la miniaturisation des puces électroniques, des composants, et les capacités de calcul en utilisant très peu de ressources. très peu énergivore. Mais en effet, c'est en train de transformer complètement le milieu, mais comme ça l'est sur Terre.
J'avais une question, je voulais revenir sur ce que ça t'a fait de quitter le monde du salariat pour te retrouver freelance. Comment tu l'as vécu?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense, déjà, je voudrais remercier Pôle emploi. Première chose, on a de la chance en France.
Absolument.
Voilà. Donc, je savais que j'avais, pendant une certaine période donnée, au moins un peu de revenus. La deuxième, c'était presque un soulagement parce que j'ai retrouvé la maîtrise de mon temps. Quand je me suis lancée en freelance, c'était aussi parce que j'étais clairement fatiguée. Et je voulais travailler 3 jours par semaine en me disant je vais prendre des petits contrats, 2-3 contrats maximum. Évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et le mercredi, je vais m'occuper de ma fille et le vendredi, je vais aller monter à cheval. Il faisait beau, j'ai commencé en septembre. Je me suis dit c'est la vie rêvée. Entre Pôle emploi et mes dividendes sur mes 3-4 contrats, j'avais pas du tout dans l'ambition de devenir riche, de monter quelque chose. Enfin, c'était vraiment la qualité de vie intellectuelle et puis un confort. Donc ça a commencé très bien. Et très vite, j'ai croulé sous les demandes. Et très vite, j'ai pas su dire non parce que quand même, c'était intéressant. Puis c'est des gens que je connais parce qu'on est dans un tout petit milieu. Et tous les sujets étaient super. Et très vite, je me suis retrouvée à travailler tout autant que quand j'étais en salariat. Après, j'ai pas eu le temps d'avoir peur et de me poser des questions sur tout ça parce que donc rapidement, je suis re-rentrée dans le salariat via le mandat social que j'ai actuellement sur Space Founders. Donc, pas beaucoup d'appréhension, un peu de naïveté. Je regrette absolument pas d'avoir fait ce changement.
Bon, super. Alors, on en vient justement à ton expérience actuelle. Est-ce que tu peux revenir sur la mission de Space Founders? Tu l'as évoqué un peu au début. Et puis, à quoi ressemble ton quotidien, en fait?
Alors, Space Founders, la mission, elle est assez simple. C'est soutenir l'écosystème des startups New Space en Europe. Une fois qu'on a dit ça, on peut faire plein de choses. Nous, on a proposé donc ce qu'on appelle un programme d'accélération, mais il faut imaginer un mix entre une mini-école de commerce Space Entrepreneuriat et un programme Erasmus.
D'accord.
Puisque le but, c'est qu'on sélectionne 10 entreprises dans toute l'Europe. On essaye d'avoir une diversité géographique, une diversité de sujets. Donc, on en a qui font des satellites, on en a qui font des fusées, on en a qui font de l'exploration. Voilà. On ne prend pas de compétition, évidemment, hein, dans le groupe.
Ouais.
Et pendant 3 mois, on fait travailler ces gens ensemble sur des problématiques qui leur sont communes à un certain moment de développement d'une société dans le New Space européen. Donc, la partie momentum est très importante. Les entreprises ont typiquement 3 ans d'existence et une trentaine d'employés et sont dans cette phase charnière où la R&D est finie. Ils ont souvent eu des investissements privés, 1 million ou 2, et il faut maintenant passer vraiment à la vente et à l'industrialisation de leurs produits sous peine de rester éternellement une petite entreprise. Donc, on est à ce moment où il faut passer de la start-up à l'acteur industriel. Et nous, on les fait échanger sur, évidemment, leurs expériences, leurs problématiques. Et on invite des entrepreneurs plus chevronnés ou qui ont réussi, principalement du domaine du New Space, pour venir leur apporter leur vision, leur éclairage sur des sujets du type « Ben tiens, je dois lever 20 millions d'euros. Dans mon plan de lever, je dois embaucher en 6 mois 25 personnes. Comment je fais ?» Des choses super pratiques, mais qui font partie du quotidien de l'entrepreneur. Du spatial. On fait ça pendant 3 mois, à la fois en présentiel, donc on va à Toulouse, on va à Munich, et en virtuel. Et vraiment, le sujet, c'est de se dire, quel problème vous avez tous en commun? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vous aider sur la réflexion et le recul? Quelle stratégie vous pouvez adopter en vous inspirant en fait de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché chez les autres? Et évidemment, on a un gros sujet, donc financement. Comment est-ce que je travaille sur ma stratégie d'exécution pour convaincre des financeurs de venir apporter de l'argent privé et public à mon entreprise.
Est-ce que c'est un domaine qui attire encore les investissements? Oui.
Oui, je pense que c'est un domaine qui attire de plus en plus les investissements. Alors, on sait que le contexte économique est particulier, mais la space tech résiste déjà parce qu'on est niche. C'est-à-dire qu'il faut quand même revoir un petit peu le nombre d'entreprises. des entreprises du spatial européen un peu dans cette gamme-là. Il doit y en avoir 200 en Europe.
D'accord.
Des investisseurs intéressés sur le sujet. On en a des Européens, mais aussi des Américains. Beaucoup d'investisseurs qui viennent des pays du Golfe. Et donc, la space tech européenne est assez attractive pour l'instant. Tout le monde veut être le nouveau SpaceX. Il y a un côté un peu égotique de dire que je suis au capital d'une entreprise qui fait des fusées. Il y a quelque chose d'intéressant et de stimulant. Les investisseurs sont des personnes qui ont aussi certaines affinités avec les sujets. Le spatial fait rêver. Évidemment, si ce sont des investisseurs spécialisés dans le SaaS qui fait de la livraison de nourriture en porte-à-porte, on n'est pas du tout sur les mêmes modèles économiques, les mêmes types d'investissements, c'est pas comparable. Mais on a quand même une forte attractivité de la space tech auprès des investisseurs.
Avant qu'on passe à ton quotidien, qu'on revienne à ton quotidien, je vais peut-être poser la question qui fâche. Il y a combien de femmes dans ces projets-là ? Tu as mentionné tout à l'heure que tu étais quasi la seule femme.
Pas assez. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le spatial. On doit être aux alentours de 20%. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les startups et l'entrepreneuriat en général. Et il y a peu de femmes dans le spatial à des positions exécutives scientifiques ou techniques autres que, n'y voyez aucun jugement de ma part, mais autres que RH, communication et marketing, qui sont de super métiers. Ce n'est pas le sujet. Mais néanmoins, quand il s'agit de vraiment le cœur stratégique de la techno, il y en a. Il y en a une qui est emblématique, Hélène Huby, qui est la CEO de The Exploration Company. Il y a des femmes, mais évidemment pas assez. Et pour te dire comme on est mauvaise élève, et pourtant c'est une cause qui me tient à cœur, sur la prochaine cohorte d'entreprise qui commence la semaine prochaine, on sera le 25 septembre, j'ai une femme CEO sur 10.
C'est la réalité.
C'est la réalité.
C'est les chiffres aujourd'hui.
Ce sont les chiffres aujourd'hui qu'il faut faire bouger, qu'on espère faire bouger, mais pour l'instant, la réalité, c'est ça.
On en vient à ton quotidien. Donc, tu l'as dit, tu n'as sans doute pas diminué ton rythme de travail, ni par rapport à ton expérience avec Thomas Pesquet ou en freelance. Tes challenges aujourd'hui, c'est quoi ?
Alors, mes challenges sont multiples. Premier challenge, il est super simple et très opérationnel. Nous, on accompagne 2 fois 10 entreprises par an. Donc, ça fait en fait 3 mois de préparation, de scouting, de sélection et 3 mois d'opération. Donc déjà, sur l'année, on est bien occupé. Mon travail, c'est de servir au mieux ces 10 entreprises. Donc, de recruter les bons speakers. Souvent, je les prépare, je les interview moi-même pour les faire parler sur des sujets. Donc, c'est vraiment de... Ouais, de la création de valeur et de contenu et de communauté.
Ça, c'est parce que tu les prépares au pitch pendant les 3 mois ou comment?
Alors, moi, je prépare à la fois les speakers, donc les intervenants. Je leur dis, voilà votre audience. Nous, on ne fait rien de public. Tout est privé, rien n'est mis sur Internet. Et moi, mon travail, c'est de faire sortir des intervenants le vrai. C'est un peu la même chose que ce que toi, tu fais. C'est de leur dire, voilà qui on est ensemble, voilà l'objectif commun qu'on se dit qui est améliorer les performances de la space tech européenne. Sur quel sujet est-ce qu'on va pouvoir parler, ou est-ce que toi, tu vas pouvoir apporter un éclairage qu'on n'a pas eu. Donc moi, mon travail, c'est vraiment de la création de valeur avec les gens. C'est le même travail que le tien.
C'est intéressant.
Bien sûr,
moi, j'appelle ça le deep listening.
C'est ça. C'est de se dire, on ne fait pas du superficiel. Si c'est pour voir des choses qu'ils ont vues 1000 fois ailleurs, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas venir prendre du temps, de leur temps précieux, pour venir participer à notre programme. Donc, gros travail opérationnel et création. Beaucoup de logistique, hein, je ne te cache pas. Le deuxième sujet qui m'occupe beaucoup, ce sont les investissements. Donc là, je salue mon investisseuse Anaïs qui fait un travail exceptionnel, mais beaucoup de travail de fond, parce qu'il faut vraiment comprendre les perspectives de chaque entreprise, travailler avec les fondateurs et mettre en face le contexte économique et donc porter les dossiers pour convaincre donc notre actionnaire principal qui est l'agence spatiale que c'est une bonne idée d'investir dans ces entreprises. Donc deuxième sujet vraiment prépondérant au jour le jour, ce sont les dossiers d'investissement. Et en transverse, on a éternellement de la veille, parce qu'il faut qu'on comprenne les changements dans le marché, ça bouge très très vite, qu'on comprenne toutes les politiques européennes, les régulations en place, tous les financements publics, vers quoi est-ce qu'ils veulent aller pour pouvoir positionner en fait nos startups dans cette grosse mouvance publique. beaucoup de veille et du développement. À un moment, il faut aussi qu'on fasse du chiffre d'affaires. Donc, pour essayer d'apporter, encore une fois, des services qui vont dans le sens de notre mission, mais si cette fois-ci, avec un retour sur investissement financier pour la société Space Founder, pouvoir continuer, en fait, à se développer, à embaucher.
Ça fait beaucoup. Je pense au mot veille, parce que, comme moi, tu as dû voir dans l'actualité qu'il y avait les premiers licenciements de personnes qui font de la veille économique à cause de ChatGPT. J'imagine que ce n'est pas le même type de veille dont on parle. Tu as beaucoup de choses, sans doute, qui se font off.
Oui, c'est beaucoup encore. Hein. Mais alors, ce que tu décris est très vrai. Nous-mêmes, on utilise un ChatGPT pour, en fait, regarder, j'en ai parlé tout à l'heure, regarder un peu tous les angles qu'on doit prendre sur un sujet pour nous prémâcher, en fait, des sources et le travail. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre... C'est de l'intelligence économique. C'est du shadow social,
ouais.
C'est des déjeuners avec des gens, des signaux faibles. On va à beaucoup de conférences aussi pour comprendre les messages qui sont donnés publiquement et les mots qui ne sont aussi pas employés. Donc en fait, ce qui n'est pas dit, c'est ouais, un travail d'intelligence. Mais un jour, peut-être qu'on sera remplacé par ChatGPT, mais ce n'est pas grave, on fera autre chose.
Oui, et puis ça ne sera pas sur toutes les dimensions que tu as décrites. Non. Je veux venir à ce point des conférences, quand on s'est rencontrés toutes les deux pour parler, pour préparer cet entretien. Tu as mentionné une dimension qui est malheureusement encore présente dans la tech, qui est la misogynie à laquelle tu as pu faire face. Parce que je veux pas qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et je veux pas que nos auditrices s'imaginent que tout est merveilleux dans la tech. C'est peut-être quelque chose dont on peut reparler ensemble.
Ouais. Oui, alors tu as entièrement raison, tout n'est pas merveilleux. On l'a dit, un criant manque à la fois de féminisation, mais aussi de diversité, diversité sociale, diversité, enfin, tous les types de diversité que tu peux imaginer. Pour moi, la misogynie, en tout cas comme moi je l'ai vécu sur mon cas personnel, hein, qui n'engage que moi, elle a changé de visage au fur et à mesure des années. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, en doctorat ou les premières années, c'était de la misogynie basique, comme ce qu'on peut voir dans les journaux. C'était principalement des remarques sur le physique, des remarques sur le fait que t'es parti en déplacement, je sais pas où, à l'autre bout du monde avec ton chef, et que vous avez raté l'avion et vous êtes resté une nuit de plus. Je te fais pas le dessin, mais c'était vraiment de la misogynie de base. Et plus j'ai eu un statut un peu plus d'experte, un peu plus reconnue dans mon petit écosystème, plus la misogynie est sur les doutes sur les capacités de leadership. C'est-à-dire, on l'entend, j'ai pas une voix extrêmement grave. Tu me vois en face de toi, je fais 1m60. C'est plutôt des remarques sur est-ce qu'elle va avoir les épaules. Aussi, évidemment, elle a le poste de directrice parce qu'il faut des femmes au niveau exécutif. Hein, je ne te cache pas.
Bien sûr.
Hein, c'est classique. C'est plus vraiment des trucs qui attaquent directement ta capacité à exécuter un travail de leader dans un environnement masculin. Et il est vrai que certains codes qui sont encore d'actualité dans mon industrie, très virilistes, où on crie en réunion, où on se lève en réunion, je l'ai vu de mes yeux vus. Moi, juste, je ne sais pas faire ça et je ne compte absolument pas faire ça. Et on se dit, est-ce qu'elle va avoir les capacités de réagir pour défendre une position face à des gens qui, eux, déploient ce genre d'arguments. Et la dernière misogynie très criante que je vois, et je ne pense pas qu'on en parle assez, c'est que dans mon métier, comme dans beaucoup de métiers, beaucoup de choses se font de façon informelle. Les gens vont prendre des bières après les conférences, les gens vont prendre des cafés. Et ils y vont entre copains. Et généralement, quand tu es une fille, ils ne t'invitent pas à 21h prendre une bière, parce que, un, c'est pas le sujet, ils sont entre potes. Et deux, ça peut être un peu mal vu. Puis même moi, j'ai absolument pas, des fois, envie d'aller prendre une bière. Sauf que c'est là, en fait, où se passent toutes les décisions exécutives. Et t'as beau faire des réunions avec tout le monde autour de la table, souvent, il n'en sort rien. Et tu te rends compte que la veille ou le lendemain, il y a des choses qui se sont passées, mais juste, tu n'étais pas invité et pas dedans, et personne t'a mis au courant. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent par derrière, et je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Et quand on est en sous-représentation féminine, on n'est juste pas invité à la table des discussions.
Ça me rappelle du temps où il y avait, tu sais, fumeurs et non-fumeurs.
C'est ça, c'est exactement
ça. Le patron fumait et tu descendais avec lui et du coup, tu apprenais plein de choses et il te disait plein de choses qui étaient totalement off, en fait.
C'est ça.
Par rapport à toutes les discussions qu'il pouvait y avoir dans les réunions, c'est exactement la même chose. Sauf que là, Bah, c'est très genré, effectivement.
C'est très genré et c'est très sur l'âge aussi. C'est-à-dire que les jeunes et les filles. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu décris. Hein. Des fois, ils vont fumer le cigare et boire un verre de whisky. Et c'est très masculin et c'est entre vrais capitaines d'industrie. C'est pas pour les autres, quoi. C'est les vrais qui vont dans ce genre de choses. Et ils n'invitent pas quelqu'un qui serait super brillant mais qui a 25 ans. Et ils invitent peu les femmes. Et là, il se passe tout. On parlait d'intelligence économique. C'est là que les informations sortent. C'est là qu'il y a des choses intéressantes. Et c'est là que les décisions se prennent souvent.
Donc, il faut des alliés.
Il faut des alliés. Il faut trouver d'autres moyens d'avoir cette intimité, entre guillemets, cette connivence avec les gens. D'autres, finalement, écosystèmes dans lesquels on peut avoir aussi notre place. Il y a aussi un réseau féminin. On en parlait avec des amis de l'industrie. On est tellement peu de filles qu'on se connaît toutes. Quand on va en conférence, on se retrouve aux toilettes des filles. Alors, il n'y a pas beaucoup de queues, c'est pratique, mais on se connaît toutes. Et du coup, ouais. Nous, on a aussi un mini réseau parallèle, entre guillemets, où ben, on se donne des tuyaux, on s'informe, etc. Mais c'est la même chose. Mais sauf qu'en termes de nombre et en termes de hiérarchie, on est vraiment sous-dimensionné par rapport aux messieurs. Donc, c'est en train de changer. Plus il y aura de femmes, en fait, à des positions exécutives, plus cette culture sera... diminuera, j'imagine.
D'où l'intérêt de certaines lois, de la loi, qui doit faire bouger les lignes. Comment ça se passe dans ton secteur ?
Alors, on respecte la loi. Hein. En fait, je vais te partager une anecdote assez intéressante. Quand j'étais en doctorat, j'étais complètement contre les quotas. J'étais moi-même persuadée d'avoir été un quota. C'est-à-dire, pourtant j'étais bonne élève, hein, voilà, tu vois bien mon parcours, j'étais très scolaire, mais j'étais à peu près sûre qu'ils avaient mis tous les CV sur la table, il leur fallait une fille parce qu'il y en avait zéro. Il y avait deux filles, on mettait les photos à l'époque, et ils ont choisi au physique. Et j'avais eu des remarques à peine voilées pendant 2 ans en disant, bon, bah, en gros, t'es là parce que t'es une fille et puis tu connais rien, quoi. Et donc j'étais une fervente opposante au quota. Bon, le temps a passé. Et en fait, pour moi, il y a une certaine génération sacrifiée, entre guillemets, dont je fais partie. Et maintenant, si j'apprends que je suis un quota, et peut-être que je le suis encore aujourd'hui, eh ben, j'en suis fière parce qu'au moins, j'ai forcé, tu vois, cette présence féminine sur des postes de décision, sur des postes exécutifs. Et je me dis que pour celle d'après, ça sera plus facile et que si moi, peut-être que je n'ai pas mérité mon poste, mais que je suis là quand même et que le boulot, je le fais et que personne n'a l'air de se plaindre, eh ben, finalement, j'ai complètement changé d'avis et je suis pour les quotas et je soutiendrai cette initiative.
Excellent. Alors, tu rejoins ma position, même si elle est flottante, parce qu'il y a quand même effectivement des arguments contre et que j'entends, hein, que je peux comprendre. Merci beaucoup déjà pour tout ça et te livrer là-dessus. Est-ce que tu aurais, avant qu'on passe sur tes questions de référence, est-ce que tu aurais un ou des conseils pour celles qui veulent rejoindre des études scientifiques, peut-être des domaines où elles peuvent s'attendre effectivement à être assez seules. Est-ce que tu peux leur donner des conseils ?
Alors, mon conseil numéro 1, et c'est le conseil que je donne à ma fille de 4 ans, c'est qu'il faut toujours avoir des copines. Je crois beaucoup à la sororité. J'ai beaucoup d'amis filles. Et mine de rien, bah, quand on se prend des choses désagréables, bah, on en discute et on rigole. On voit qu'on n'est pas seul, donc vraiment de s'entourer, quoi. Moi, j'essaye pas du tout de ressembler à mon homologue masculin, parce que j'y arrive pas, et surtout, je trouve pas que ça fasse vraiment de sens. Donc, je ne rentre pas dans le moule, mais j'ai des copines, et ça me permet d'être soutenue, de pas être seule. Donc, vraiment s'entourer. On parle beaucoup des mentors, des choses comme ça. Moi-même, j'ai eu des jeunes filles que je connaissais absolument pas, qui m'ont contactée sur LinkedIn, qui m'ont posé des questions. Ben, ça me fait plaisir de répondre. Donc vraiment pas hésiter à s'entourer. Je pense que c'est la première chose. Et la deuxième, c'est se rendre compte des possibles des métiers techniques. Et on revient sur mon début d'histoire. Moi, j'ai fait des écoles d'ingénieurs parce que j'étais bonne élève et que, bon, j'étais meilleure en maths, quoi, qu'en français. Et je ne me rendais pas compte de tout ce que j'aurais pu faire, en fait, dans mon parcours. Je ne me rendais pas compte que mon école d'ingénieur, j'aurais peut-être pu le faire, je ne sais pas, au MIT, sur des sujets de robotique. Enfin, pour moi, ça me paraissait mais des trucs qui étaient complètement de la science-fiction. Et en fait, non, juste, c'est possible. C'est pas simple. Il faut certains ont plus de chance que d'autres. Mais néanmoins, ça existe, quoi. Et vraiment de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je m'octroie un an pour aller regarder si une carrière scientifique, ça fait du sens pour moi ou pas ? Et si oui, laquelle ? et de choisir en connaissance de cause et pas sur des préconceptions. Donc ça serait mes deux conseils, s'entourer et se renseigner.
Se renseigner, ça peut être, pourquoi pas, aller faire un stage de troisième ou de seconde, selon, dans un domaine, et puis tenter sa chance, en fait. Pourquoi pas aller solliciter une société dont on rêve et on peut avoir des bonnes surprises.
Les gens adorent partager leur métier. Et d'autant plus dans le New Space, où 90% des gens sont passionnés par ce qu'ils font. Moi, ça m'est jamais arrivé de dire à un étudiant ou une étudiante « Non, j'ai pas de temps pour te répondre » ou « Non, j'ai pas envie de te parler ». Je veux dire, c'est toujours super flatteur quand quelqu'un s'intéresse à notre métier, on a envie d'expliquer ce qu'on fait, bah, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à tenter. Au pire, la personne répond pas.
Ouais, exactement. Je voulais te demander, justement, puisqu'on parlait de ces conseils, si toi, tu revenais en arrière à un moment de ta vie pour te donner un conseil, ça serait quand et pour te dire quoi ?
Je pense que... Déjà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Malgré les petits accros de parcours, je suis très contente de là où je suis aujourd'hui. Donc, le premier conseil que je me donnerais quand j'étais jeune, c'est de me faire confiance parce que je vais me débrouiller à un moment de l'histoire. Le deuxième, c'est un moment très particulier, c'est ce moment où la mission de Thomas Pesquet était finie, où moi j'ai eu ma fille, où j'ai eu un travail de bureau qui n'était pas inintéressant. Je pense que j'ai été pendant presque 3 ans retenue par la peur du non-salariat, par la peur de l'ennui. En fait, j'avais cette préconception, je me disais, j'ai tellement un milieu exceptionnel que je ne trouverais pas mieux ailleurs et que j'ai pas osé répondre à des offres d'emploi. J'ai pas osé sortir et donc pendant 3 ans, je me suis un peu plaint sur moi-même en me disant, c'est le mieux que ce que je... Comme si j'étais enfermée dans un truc, quoi. Et donc, le conseil que je m'auto-donnerais, c'est le mouvement que j'ai fait de me lancer en freelance, j'aurais dû le faire 3 ans avant. Mais à l'époque, j'avais pas la maturité, j'avais pas encore vraiment construit mon projet et j'étais pas prête. Donc, c'est un peu à double tranchant, mon conseil.
C'est un peu à double tranchant. Et en général, quand on prend une décision, on a de bonnes raisons de la prendre, en tout cas, à ce moment-là. Mais oser, c'est toujours un conseil qu'on peut donner. J'en viens donc aux références. Quel est le livre que tu veux recommander à nos auditeurs et auditrices ?
Alors, j'ai choisi un livre de science-fiction, sans surprise. C'est un livre qui est paru dans les années 50 de Clifford Simak, qui s'appelle « Demain les chiens » en français et qui s'appelle « City » en anglais. Et c'est un livre qui m'a énormément marqué. C'est un livre assez court et ce sont des nouvelles, donc assez facile à lire. Et l'histoire, elle est simple. C'est la mythologie, le narratif de comment est-ce que les hommes ont disparu de la planète Terre et comment est-ce qu'ils se sont fait remplacer par une civilisation de chiens et puis de fourmis après. Dit comme ça, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est des nouvelles extrêmement poétiques qui commencent, sans révéler le contenu du livre, sur un moment où le transport est ultra rapide. Donc en fait, on n'a plus besoin de vivre de façon grégaire. Donc en fait, tu as une dispersion des êtres humains et tu n'as plus le personnage de la ville, d'où le nom, j'imagine, City. Et ça crée en fait pas mal de changements structurels dans la société. Et petit à petit, on a l'espèce humaine qui peut partir sur Jupiter, les chiens qui se dotent de la parole. Et c'est vraiment raconté comme un conte, comme une mythologie. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est de la transmission orale 10 000 ans après que les humains aient disparu de la surface de la Terre. C'est un livre qui est très particulier, mais moi qui m'a beaucoup, beaucoup touchée et je le recommande.
Excellent. Je regarderai. Je pense l'avoir lu, mais en tout cas, c'est trop vieux pour que je m'en souvienne vraiment. Et moi, ça ne m'avait pas tant marqué que toi. est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire ?
Alors, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. J'en ai choisi une pour illustrer et aussi pour la faire connaître. C'est une astronaute américaine, sans surprise, mais qui est d'origine indienne, qui s'appelle Sunita Williams. Et je l'ai choisie pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première femme astronaute avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. Et je ne m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un comme ça. On revient sur le fait que est-ce qu'il faut vraiment se conformer aux autres, donc aux messieurs astronautes. Et elle avait vraiment une touche personnelle. Elle était extrêmement différente, on va dire, du reste du corps des astronautes. Elle a été militaire, elle a été pilote, je crois, d'essai hélicoptère. Elle a fait plusieurs missions sur la Station Spatiale Internationale. Elle a même été choisie pour un vol test d'une capsule de Boeing, donc un truc qui potentiellement peut péter en l'air, quoi.
Wow.
C'est vraiment une vétérante du spatial. Et à côté de ça, elle avait un style de leadership et de façon dont elle se comportait avec nous, qui étions que des opérationnels et en groupe, extrêmement bienveillant, vraiment sur des valeurs super altruistes. Et elle m'avait beaucoup marquée parce que je m'attendais en fait, dans ma naïveté de mes 25 ans, à des femmes militaires qui n'étaient pas là pour rigoler, avec des traits super masculins. Et en fait, elle m'a fait entrevoir le fait qu'on pouvait, à ce niveau-là, être complètement différent des autres et qu'en fait, il n'y avait absolument aucun problème. Mmh. Donc, Sunita Williams, voilà, elle n'est pas très connue ici en France, mais une personne exceptionnelle.
Hyper inspirant. Est-ce que tu as une émission que tu veux mentionner? Je ne sais pas, quel est ton support préféré?
Les podcasts. Émission qui n'a rien à voir avec le spatial, La Poudre, qui a été pour moi, je crois que ça devait être 2016 ou 2017, ma première ouverture dans le monde du féminisme que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal ou qui était à moitié tabou dans mon industrie, parce que les féministes, elles sont toujours en colère. La Poudre de Lorraine Bastide, moi j'ai écouté les premières années, j'attendais l'épisode qui sortait, ça m'a vachement ouverte sur plein de sujets. Et j'en écoute beaucoup d'autres podcasts, mais il a toujours une place particulière dans ma liste de lecture.
Absolument, et à réécouter et à redécouvrir, ou à découvrir pour celles qui ne le connaissent pas. Est-ce que tu veux parler d'une cause qui te tient à cœur?
Je pense qu'on en a parlé tout le podcast. Plus que l'inclusion féminine, c'est la diversité dans le spatial. La diversité de background, de personnes qui viennent de milieux sociaux différents. Je pense que le spatial est encore vu comme super élitiste, avec un certain capital social à avoir. Et là, je voudrais faire une petite promotion pour une association qui s'appelle Space Elevator, donc en gros l'ascenseur du spatial, qui est porté par un de mes amis. Et le but, c'est vraiment d'avoir des élèves qui viennent de différentes parties, la France rurale par exemple, ou différents quartiers de France, et d'essayer de les amener sur des expériences qui changent la vie, par exemple à Kourou pour voir une fusée, pour qu'en fait ils se disent ça c'est possible en fait, c'est possible pour moi, c'est pas inatteignable, je peux travailler dans ce monde-là. Et je pense qu'on manque cruellement de diversité de pensée, et c'est pas comme ça qu'on est créatif, il faut avoir différentes expériences de vie pour pouvoir apporter quelque chose à un écosystème qui est sur penser le futur, en fait. Penser qui nous sommes en tant que civilisation. Si on prend que des gens d'Europe de l'Ouest hyper éduqués, on va avoir le même résultat. Donc vraiment, c'est un sujet, il faut pas que les femmes, quoi, mais vraiment tout le monde dans
tout
le spatial.
Eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin. Lucie, je te remercie beaucoup pour ton témoignage.
Merci de m'avoir invitée.
J'ai beaucoup appris aujourd'hui et tu nous as emmenés dans un autre domaine qui est passionnant. Donc, je vais conclure ici. Chères auditrices et auditeurs, vous venez d'entendre Lucie Campagnolo, la CEO de Space Founders, qui nous a fait explorer des nouvelles frontières. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast et bien sûr à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. Toutes les références seront dans les notes de l'épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel entretien avec une femme formidable de la tech. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais d'explorer.